La rencontre dans la Bible. Tout d'abord, il me semble que le mot rencontre est un mot finalement très utilisé aujourd'hui et plutôt sympathique. Quand on pense rencontre, on ne pense pas tout de suite, par exemple, policier ou amende ou enfer. C'est des mots. Le mot rencontre est un mot de la catégorie des mots agréables à entendre. C'est pas un mot qui fait tout de suite problème. Bon. Je pensais, et ça tombe bien avec le temps, que ce mot renvoie à quelque chose en germe. Il y a toujours quelque chose en germe dans la rencontre et qui attend de d'éclore, de se manifester, de se déployer. Il y a quelque chose toujours en puissance, un peu caché dans une rencontre. C'est pas le soleil d'aujourd'hui après l'hiver qui me démentira. Franchement, vous avez de la chance. Venant de Marseille, c'est pas ce temps-là tous les jours qu'il y a autant. C'est tout à fait clair. Mais il fait beau certains jours en Bourgogne. Hein. Et quand il fait beau comme ça, c'est vraiment très, très agréable. Et je me réjouis que vous ayez pu visiter Paray-Monial sous un tel soleil. Donc, rencontre est un mot sympathique. Pratiquement toujours, il est utilisé positivement. Alors, on l'utilise pour des choses très différentes. En vrac, le point rencontre dans un hall de gare ou dans un aéroport. Le point rencontre. Et puis les rencontres au sommet entre les présidents des grandes puissances mondiales pour sortir d'une crise ou d'une guerre. La rencontre d'une connaissance par hasard ce matin en allant faire mes courses. La rencontre du curé ou de la catéchiste pour préparer, comme on dit, un temps fort. Voilà donc une première constatation simple. Il y a une multitude de rencontres dans l'existence et je voudrais faire tout de suite une distinction qui vaut ce qu'elle vaut. Il y a des rencontres prévues, par exemple celle-là, et des rencontres imprévues. Par exemple, je prévois d'aller interviewer un témoin dans un lieu donné ou d'aller rendre visite à une personne isolée pour essayer de recueillir une parole de cette personne dont on n'entend jamais la voix sur la place publique et qui vit pourtant intensément l'amour. Je peux aller à la rencontre, donc, de personnes que je prévois de rencontrer et je leur demande si elles sont d'accord pour prendre un temps avec moi. Bon, j'imagine que vous reconnaissez ce que vous faites régulièrement. Je prévois la rencontre d'une équipe d'animation paroissiale autour d'un bon repas. Ces rencontres prévues, dont le but n'est pas le même suivant les circonstances, par exemple, oui, elles n'ont pas le même but selon les circonstances, même ces rencontres prévues. Ce matin, je suis allé signer des papiers avec un banquier. Bon, c'était très sympathique d'ailleurs. On a découvert que ce banquier connaissait très bien par sa femme, alors attendez, c'est comme ça devient comme UNESCO, par sa femme, il connaissait la mère d'un séminariste d'un diocèse étranger, celui d'Autun. Agréable, très agréable. Signer des papiers, ça s'est agrémenté de quelque chose d'imprévu, mais la rencontre était prévue, rencontre, enfin. Pour moi, le plus rapidement possible. Et pourtant, ça durait 5 minutes, 10 minutes, c'était très sympathique. C'est pas la même chose que la rencontre prévue avec ma femme ou mon mari pour faire le devoir de s'asseoir si j'appartiens aux excellents mouvements des équipes Notre-Dame. C'est pas la même chose. Je pose. Oui, alors, il y a, c'est différent des rencontres imprévues.
Asseyez-vous.
Comment? Ça va, c'est bon. Vous entendez bien?
Ah oui, oui.
Bon, mais c'est le but, hein, de la manœuvre. Bon. Il y a des rencontres imprévues. Je pense à l'une d'entre elles célèbres, qui a retourné complètement le cœur de Saint Paul sur la route de Damas. Celle-là, franchement, il ne l'avait pas prévue. Il avait prévu une autre, plus exactement. Et l'autre rencontre encore, celle des deux disciples sur la route d'Emmaüs. Ils avaient peut-être prévu ensemble de marcher tous les deux, mais certainement pas. Ils n'avaient pas prévu la rencontre avec quelqu'un qui, d'ailleurs, ils n'ont reconnu que tout à fait au terme de la rencontre, si je puis dire. La Bible, évidemment, évoque en quantité des rencontres de tous les genres, de tous les types. Je me souviens de la lettre que le pape Jean-Paul II avait écrite jadis sur la femme, la dignité de la femme, dans laquelle il commentait chacune des rencontres du Christ avec des femmes. Et dans ce domaine, aucun protocole écrit d'avance. Jésus n'a pas de schéma en tête. Il n'a pas un cadre préétabli pour rencontrer les femmes, ou les enfants, ou les hommes. Chaque personne est pour lui unique. Et de ce point de vue, nous ne pouvons pas parler de la rencontre de Jésus avec les femmes, mais des rencontres de Jésus avec des femmes. Si nous cherchions un modèle, mais avant cela, je voudrais poser une question, pardonnez-moi, oui, je posais quelques questions toujours sur le, pour entrer dans le sujet. Est-ce que nous pouvons toujours prévoir les rencontres? Bien sûr que non. Pourtant, nous prévoyons certaines rencontres. Est-ce que nous pouvons décider à l'avance qu'il y aura vraiment rencontre, même quand je la prévois? Pas toujours. Parce qu'il peut y avoir simplement un échange de propos convenus. Non, ce n'est plus une rencontre. Pas si mal déjà si on ne se tape pas dessus. Et même sans se taper dessus, il peut ne pas y avoir une vraie rencontre. Pouvons-nous maîtriser dans le temps et dans l'espace ce qui relèvera de toute façon de quelque chose d'inédit, propre à chaque rencontre? Et pourquoi il y a de l'inédit dans chaque rencontre? Parce que je postule à l'avance que tout être humain porte en lui les aspirations, une recherche, des joies, des peines, des paradoxes, des postures unifiées, des postures qui ne sont pas unifiées. Voilà. Complexité de chaque personne humaine, mais je postule que, au fond, il y a une recherche commune qui va se jouer dans une rencontre. Ou alors, il ne faut pas essayer d'entrer en rencontre. Je postule qu'il y a, par essence, je suis peut-être un peu positif en disant ça, le refus en toute personne humaine de posséder par elle-même toute la vérité. Peut-être certains vont dire « Ah, mais il est bien optimiste, l'évêque Lotin. » Peut-être. Ah, il fait beau aujourd'hui, ça tombe bien. Je postule quand même que même chez les gens qui apparemment sont les plus, disons, fermés, il y a toujours un interdit qui sommeille, un bon interdit. Attention, tu n'es pas toi-même, tu n'es pas la vérité, bien sûr, mais tu ne la possèdes pas, même celle que tu penses aimer passionnément. Les vraies rencontres ne sont-elles pas toujours plus ou moins de l'ordre du cadeau? Et pas forcément du cadeau que nous attendons ou qu'on se prépare à offrir. Est-ce qu'une rencontre n'est pas toujours le fait d'un appel et d'un déplacement? Et c'est là, je crois que peu à peu nous allons entrer dans le sujet que René m'a proposé, à savoir la lumière, un petit peu une lumière qui nous vient de cette réflexion sur la rencontre à partir de l'Écriture sainte. Et là, de nouveau, je me suis dit, mais bon, que faire, quoi? Alors je vous propose la réflexion, il n'y a pas vraiment un plan, ne vous inquiétez pas. Si j'en vois qui dorment vraiment, je saurais qu'ils ne me suivent pas, mais ce n'est pas grave. La Bible évoque, je disais, quantité de rencontres. Si nous cherchions un modèle de rencontre type dans l'Écriture sainte, nous ne le trouverions jamais. Il n'y a pas de modèle type de rencontre dans l'Écriture. Je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux rencontres de Jésus avec les femmes, il n'y a pas un canevas préétabli de rencontre. Ah non. Pour chacune, la rencontre se présente différemment. Ça dépend du lieu, de la circonstance et bien sûr de la personne rencontrée. Ce n'est pas d'abord une femme, c'est quelqu'un de singulier qui vit l'humanité avec cette, selon comment on est, avec cette grande joie de ne pas être du côté masculin, au contraire, ce manque de ne pas voir le monde aussi du côté masculin. ça comme vous voulez, on peut de toute façon inverser les termes et dire la même chose de la rencontre de Jésus avec des hommes. L'Évangile et plus généralement la Bible sont émaillés par des rencontres toujours particulières, circonstanciées, très très variées dans la, disons dans le genre, dans le temps, dans le lieu. Et nous pouvons déjà poser donc une question. Pourquoi la Bible est-elle si riche en rencontres de tous ordres? Pourquoi la Bible est-elle si riche? Fait écho de manière si riche à tant et tant de rencontres de tous ordres. Et finalement, peut-être, on ne rencontre autant, on découvre pas autant de rencontres, c'est peut-être dans d'autres, j'allais dire, dans d'autres fondements, même à des courants spirituels, ou à des... Il y a là quelque chose de beaucoup plus qu'un livre de sagesse. Il y a beaucoup plus que les propos rapportés par un sage. Il y a des récits, et puis quelquefois aussi des ramassis de, disons, d'organisation, de lois organisées. Puis il y a des récits, et puis il y a des chants de poèmes. Enfin bon, vous connaissez très bien, la Bible est très diverse, mais on trouve beaucoup, beaucoup de récits, de rencontres. Et pourquoi? Et j'en viens à un premier point de découverte, je dois le dire bien simplement, quand j'ai commencé à faire un peu cette réflexion sur la rencontre dans la Bible, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, mais qui est facile. À un moment, je suis allé voir dans la concordance. Vous connaissez tous la concordance, la Bible. Alors, vous n'êtes pas à la concordance. Grâce à l'ordinateur, mais avant ça se faisait avec des fiches, tous les mots sont répertoriés avec leur utilisation. Et il y a les versets où on retrouve l'utilisation des mots, en gros. En plus, si on va dans le détail, il y a la traduction à partir de l'hébreu et du grec. Mais c'est extrêmement intéressant. Je suis allé voir le mot « rencontre ». Quelle n'a pas été ma surprise? Et pourtant, je le savais, mais j'avais oublié. Je m'attendais à trouver le mot « rencontre » très souvent pour parler de ce que nous appelons, nous, des rencontres. Eh bien, non. Enfin, pas tout à fait. Là encore, la Bible me déplace. Si je cherche la curiosité, je vais très vite être déçu. Si je cherche à connaître le premier rendez-vous amoureux de Joseph et de Marie, je vais être déçu. Si je cherche comment Jésus a parlé à sa mère, je vais être déçu. Il y a tellement peu de paroles, et en plus elles sont difficiles à interpréter par-dessus le marché. Non. Par contre, je rencontre massivement le mot rencontre. Pour désigner quoi? L'attente de la rencontre. Et vous voyez, si l'accord était là, il se mettrait à sourire. Parce que dans l'attente, tiens, Dominique, s'il n'est pas parti, il a un petit sketch à faire là-dessus aussi. C'est là, plus loin, tente, T-E-N-T-E. Mais en disant tout de suite l'attente, la demeure de l'arche d'alliance, et évidemment, nous pouvons entendre aussi, comme disait Simone Veil, l'attente de Dieu. Mais je veux parler ici de l'attente de la rencontre. Expression courante dans l'Ancien Testament pour désigner, on ne sait pas bien quoi, en tout cas, ce quelque chose qui quelquefois repose sur l'arche d'alliance, parfois n'y est pas, en tout cas, qui indique une présence permanente du Dieu d'Israël à son peuple. Et dont on prend bien soin de noter que ça n'a rien à voir avec une idole. Même si certains volent à un moment l'arche d'alliance pour en faire une idole. Bien mal leur en prend, parce que de toute façon, ils ne gagnent pas la victoire. Ils rendent ensuite l'arche d'alliance à Israël. Bon, enfin, c'est toute l'histoire de l'arche. Très curieusement, ce mot revient souvent pour renvoyer donc à, disons, ce signe visible d'une présence cachée. Celle qui permet le dialogue de Moïse avec Dieu, et aussi celle qui permet au peuple, par la voix de Moïse, par le ministère de Moïse, d'être au courant des pensées de Dieu pour le peuple, des paroles de Dieu pour le peuple. Et donc, très curieusement, le mot rencontre s'applique ici. Ici. Comme si l'Écriture sainte nous rappelait que il n'y a pas de rencontres humaines, en tout cas humanisantes, disons, belles à vivre et porteuses d'avenir, porteuses d'une promesse,
Si le peuple oublie ou méprise la demeure, l'attente de la rencontre, qui, comme on le sait, je peux relire un tout petit peu ici le vocabulaire de théologie biblique, ça va rassurer, mais ça ne va pas être long, mais c'est quand même intéressant. Appelé en hébreu tente de rencontre, tente de réunion, tente de rendez-vous, elle est nommée aussi tabernacle par dérivation du mot latin. Tabernaculum. C'est là que Dieu rencontre Moïse et le peuple qui consulte Dieu, qui veut recevoir une parole de la part de Dieu. C'est le lieu, la tente c'est là que Dieu parle à Moïse. La tente est aussi nommée demeure. Tiens, le grand mot de Saint Jean. Lieu des visites de Dieu. Lieu d'une habitation permanente. Ces mouvements, c'est-à-dire on la déplace, hein, à mesure que le peuple marche, on prend avec soi, si je puis dire, l'attente de la rencontre. Ces mouvements règlent ceux du peuple. Parfois, des textes disent qu'elle est hors du camp, bon, je vous passe les références, ou au contraire qu'elle est au milieu du camp. Ça dépend des moments. En tout cas, on situe son lien au peuple, et qui du coup est appelé de ce fait à la pureté. Si c'est le peuple qui peut accéder à la tente de la rencontre, alors il y a une exigence de pureté, c'est-à-dire de droiture intérieure, de cœur finalement, car la pureté est une affaire de cœur évidemment. Donc, la description de cette tente de la rencontre suit exactement dans le développement de l'Écriture sainte le modèle du Temple de Jérusalem. La tente a d'abord été le sanctuaire itinérant du désert. Imitant la demeure des nomades, elle contenait l'arche, apparaissant ainsi comme la demeure de Dieu. Bon. Donc, de manière très, très intéressante, la rencontre avec Dieu, si je continue cette lumière toute simple, hein, que le mot rencontre s'applique beaucoup à l'attente de la rencontre, du coup cette rencontre n'appartient pas à la catégorie des rencontres prévues ou imprévues. Je ne peux plus faire trop la différence. C'est très intéressant ça. Je ne peux plus classer mes rendez-vous en fonction de ceux qui sont prévus et ceux qui sont imprévus. Car d'une certaine manière, il est toujours le Dieu d'Israël caché et présent. Nous le sentons bien ici, la question n'est donc pas de rester dans des catégories trop humaines pour parler des rencontres, dès lors qu'il s'agit de la rencontre. Dieu ne fait pas nombre avec nous. Si on prenait un recensement, de la ville de Parémonial, je ne vais pas ajouter Dieu au nombre des gens recensés. Il y a 12 000, je ne sais pas, prenez 15 000. Il n'y a pas 15 000 un habitant à Paris, parce qu'il faudrait que j'ajoute Dieu. Il ne fait pas nombre avec les hommes. Et la rencontre avec lui n'est pas à rajouter sur un agenda comme une rencontre qui fait renombre avec les autres rencontres. Sinon, ça devient compliqué, la vie croyante, vous savez. Ça devient compliqué, si c'était ça. Et franchement, je ne crois pas que notre Dieu vient pour compliquer l'existence, mais plutôt pour la sauver, c'est-à-dire d'une certaine manière la récapituler et l'unifier. Donc, Dieu fait beaucoup mieux, ou plutôt il fait autrement. Il devient homme. Il prend chair de notre chair. Plus profondément, ce que nous espérons de nos rencontres humaines, il devient l'auteur, et en nous la source de toute rencontre, le Christ. Il demeure la source et l'horizon de toute existence humaine. Et c'est quoi une existence humaine? Sinon une existence en relation. Et c'est quoi finalement le plus grand malheur? C'est d'être séparé, enfin séparé de manière mauvaise, d'être coupé définitivement de la confiance, de l'écoute et du partage. Et jusqu'à preuve du contraire, même si j'ai vu ce matin chez mon banquier qu'il y avait maintenant des assurances proposées pour les animaux, pour la mort, les accidents, les assurances vie pour les chiens, les chats, les compagnies. Bon, très bien. Il y a quelque chose de plus important encore, c'est de savoir si notre existence humaine, c'est d'être en relation, et pas simplement être protégé contre les dangers, enfin, quand même, non? C'est comme incroyable, enfin bref, non. Un autre sujet, c'est pas le sujet, il ne porte pas sur les animaux, donc ça va très bien. La rencontre avec Dieu n'est pas du même ordre que celle du point de rencontre dans le hall d'aéroport, très commode par ailleurs. Elle est plutôt de l'ordre d'une demeure vivante parmi nous et toujours en avant de nous. Je voudrais maintenant poser une question. Est-ce que le lieu des rencontres, lieu occasionnel, prévu ou imprévu d'une rencontre, est-ce que ce lieu, le cadre si vous voulez, influe sur ce qui va se passer au moment du dialogue lui-même entre des personnes? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Les circonstances et les lieux sont importants. Il n'est pas indifférent de considérer le cadre d'une rencontre. C'est évident que le cadre d'une rencontre est important, même s'il n'en est pas, bien sûr, le tout. Il y a cadre et cadre, je veux dire, l'espace matériel. Par exemple, celui où nous sommes, cette salle, qui est quand même relativement correcte, enfin, c'est pas... Non, vous trouvez pas? Ah bon. Oui, comme l'évêché d'Autun est relativement correct. Le cadre n'est pas désagréable. C'est comme ça. Bon. Ça, c'est le cadre matériel, j'allais dire. Il compte beaucoup. Puis il y a le cadre de l'organisation. C'est évident que toute une équipe ici a longuement pensé, bien sûr, le cadre matériel, mais j'allais dire encore plus aussi important, mais peut-être même plus, en tout cas, le contenu de la rencontre, les balises, les repères, et puis ensuite vous faites confiance aux organisateurs, vous n'êtes pas dès le début à dire mais pourquoi on ne changerait pas l'horaire, quoi, parce qu'on commence une rencontre comme ça, il faut passer sa journée à changer l'horaire. Quoi. On a beaucoup avancé. Non, et alors, ce cadre organisationnel, c'est bon, bien sûr qui anime, qui ouvre et conclut le débat, qui sont les personnes conviées à la rencontre, etc. Dans un truculent chapitre de son dernier livre à propos de la famille, Fabrice Hadjadj, que vous connaissez, philosophe, jeune philosophe, a écrit un chapitre truculent où il compare, je veux dire qu'il oppose, la tablette numérique et la table familiale. Alors, ben, je sens que vous êtes déjà à l'écoute de ce passage de Fabrice Hadjadj. Alors, il faut que je retrouve la page. Comment ?
Posez le micro, vous aurez vos deux mains.
Ah, voilà quelqu'un qui me donne un conseil tout à fait judicieux. Le lieu de la table, on dira, c'est pour se sustenter, c'est un besoin de nourriture, c'est tout à fait vrai. Mais c'est aussi le moyen du vis-à-vis, d'un face-à-face amorti et médiatisé par le repas, d'un côte-à-côte qui prépare et entretient l'amitié. Souvent, on évoque le face-à-face comme s'il se situait hors du monde et que les meubles, vêtements, lieux y fussent indifférents. La philosophie a eu tellement tendance à négliger de penser les objets quotidiens que même Lévinas envisage autrui sans regarder aux conditions concrètes, matérielles et techniques de cet envisagement. Or, comme l'observe l'auteur des Considérations sur la France, on ne peut considérer autrui de manière immédiate. Intéressant. On ne peut jamais considérer autrui d'une manière immédiate. C'est pour ça d'ailleurs que les médias sont là, entre parenthèses. Le vis-à-vis direct est impossible. Pas seulement parce qu'il serait incongru ou trop violent, mais aussi parce que la rencontre humaine exige une mise en disposition et donc un certain environnement propice, un dispositif déjà humain, disons un rituel passant par des choses qui portent la marque de l'industrieuse réceptivité de nos mains. Marie est au but de Marie de Magdala. De Béthanie, Marie de Béthanie, est au pied de Jésus, mais
il faut la maison de Béthanie, les tapis, tel coussin plat, le repas pour lequel Marthe s'agite à l'arrière-plan et qui forme déjà le cadre où sa sœur peut écouter le maître. Le prochain s'approche, on ne lui saute pas dessus. Cette approche passe toujours par une certaine distance et la table familiale ménage l'espace de cette proximité. Comment ? Par l'entremise du repas, bien sûr, mais aussi par le biais de son plateau, apposant le plateau, la table, enfin, apposant une juste distance, la distance qui équilibre le respect et la familiarité, et qui repousse aussi bien l'indifférence que la promiscuité. Sans ces dimensions fixes et la position assise qui induit sa hauteur, le nécessaire intervalle entre soi et autrui serait par trop exposé à l'impudence et au caprice. On pourrait être trop près ou trop loin, capable de se jeter directement sur ce qui nous plaît ou tourner aussitôt le dos à qui ne nous plaît guère, si bien qu'il n'est pas exagéré de voir dans la table familiale, une certaine planche de salut social. C'est bien vu, hein ? C'est très bien vu. La rencontre seule, isolée, hors contexte et hors durée, n'est en rien une planche de salut social. Mais, dit le fameux Sajjan, c'est la table familiale qui est davantage le cadre, enfin, une rencontre où va se jouer quelque chose de l'ordre de ce qu'il appelle le salut social. C'est le fait que chacun ne va pas rester en son coin. La table familiale est peut-être plus que bien d'autres lieux, non pas seulement des rencontres, mais de la permanence fraternelle de tout échange humain. La permanence fraternelle de tout échange humain. Cela me fait penser maintenant à la rencontre d'Abraham avec les mystérieux visiteurs qui lui tombent pratiquement du ciel. Enfin, il n'attendait pas. Il y a trois hommes qui sont là devant sa tente au plus chaud de la journée. Et cette rencontre inattendue, imprévue si je prends les premières catégories, mais qui sont impropres, conduit vite à un bon repas, quoique improvisé. Il y avait quelques réserves dans le troupeau. Reprenons ce passage qui, pour le coup, comporte explicitement et à plusieurs endroits le terme de « rencontre ». Et du moins à première vue, qui concerne la rencontre avec les marcheurs tombés d'on ne sait où, mais dont le texte aussi nous dit qu'il s'agit d'une véritable découverte de Dieu lui-même. Mais une découverte après coup, un petit peu comme Moïse devant le buisson ardent. Dieu était là et je ne le savais pas. C'est la même chose avec les disciples d'Emmaüs. Ils le reconnurent et au moment où il disparaît à leur regard. C'est toujours insaisissable du secret de la rencontre. Bon, écoutez, je ne résiste pas à la joie, même si on a un peu de temps, René Savard, à la joie de lire ce passage, de relire ce passage. Dominique est parti, Dominique Passilon.
Il répète au-dessus.
Ah oui, non, parce que comme il est tellement bien, ben René, tu peux pas venir le lire. Merci.
Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut trois hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah, « Vite, pétris trois mesures de fleurs de farine et fais des galettes. » Et il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillet, du lait et le veau préparé, qu'il plaça devant eux. ils se tenaient sous l'arbre, debout près d'eux. Ils mangèrent et lui dirent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Là, dans la tente. » Le Seigneur reprit « Je dois revenir au temps du renouveau, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même et dit « Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir? Et mon maître est si vieux ?» Le Seigneur dit à Abraham « Pourquoi ce rire de Sarah ?» Et cette question « Pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille ? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ?» À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. Sarah nia en disant « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » « Si, reprit-il, tu as bel et bien ri. »
C'est magnifique. On est là devant un texte étonnant. La joie cachée de Dieu est présente. Quoi. Je ne pas rire. Si tu arrives. Non, j'ai pas ri. Si tu arrives, il n'y a rien de mal de rire. Enfin, quoi. Bon, magnifique cette chose. C'est admirable. Admirable. Je vais me poser une question sur ce texte. Pourquoi Abraham, au lieu d'avoir peur des inconnus, s'est-il précipité à leur rencontre? C'est la question que je voudrais me poser, écoutant ce texte avec vous, parmi beaucoup d'autres, mais pour en rester sur le thème de la rencontre. Pourquoi, loin d'avoir peur de ces trois hommes qu'il ne connaissait pas, il s'est laissé conduire à vivre au maximum la belle qualité d'hospitalité qui est celle des Orientaux? On pourrait raconter des histoires, non plus finir sur la belle hospitalité des Orientaux. Mais le texte, évidemment, nous dit beaucoup plus que cela. Il ne parle pas simplement du fait que les Orientaux sont accueillants, ça on le sait très bien. Abraham a été appelé lui-même, dans sa propre existence, à faire confiance à quelqu'un qu'il ne voyait pas et qui le conduirait vers un lieu qui n'était pas son lieu habituel. Quitte ton pays. Et rien ne nous dit dans ce texte cas pour Abraham, qu'Abraham a voulu fuir de lui-même, je ne sais pas moi, par exemple, l'hostilité. Le texte ne dit pas cela. Il faut toujours expliquer qu'il manquait d'herbe à cet endroit-là, qu'il fallait pousser les boutons un peu plus loin, mais jusqu'à faire des milliers de kilomètres, c'est quand même pas. En tout cas, bref, le texte dit qu'il partit vers, sur le soir de sa vie, sur un appel de Dieu qui le décentrait, qui le délocalisait, qui lui faisait prendre un chemin qu'il ne connaissait pas. Simplement, c'est sur l'écoute d'une parole qui n'était pas la sienne qu'Abraham s'est mis en route avec tous les siens, etc. Et il est donc devenu, d'une certaine manière, un étranger sur la terre. Un étranger sur la terre. Et n'y aurait-il pas quelque chose de cet ordre dans le fait qu'il se précipite vers ceux qui sont à la fois différents de lui, mais semblables à lui, dans leur être de pèlerin? C'est comme la perle rare que j'appellerai ici l'étrangère. L'étrangère ou l'étranger. C'est quelque chose qui appartient à la nature profonde du peuple d'Israël, du peuple de l'Alliance. C'est précisément un peuple étranger sur la terre. Pour Enzo Bianchi, prieur de la communauté de Bose en Italie, que je crois un certain nombre connaissent, l'épisode de l'accueil par Abraham des trois visiteurs au chêne de Mambré, c'est comme une parabole de ce qui se joue dans toute rencontre. Dans toute rencontre. Je parle des rencontres hospitalières, parce que dès qu'il n'y a pas un minimum d'hospitalité de part à l'autre, il n'y a pas de rencontre. Enfin, là où il y a un minimum d'hospitalité, ce qui se passe pour Abraham est comme une parabole de toutes les rencontres humaines. Car si la rencontre... Pourquoi je disais ça? Oui, parce que Abraham porte en lui la marque de l'étranger. Vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la rencontre, ça? Nous sommes habitués, je fais un détour plus moderne, j'allais dire, sur la notion d'étrangeté par rapport à nous-mêmes. Bon, si je me perds dans les dédales de la psychologie, de la psychanalyse, René m'arrêtera immédiatement, mais je fais ce petit détour tout de même qui me paraît intéressant. Dans l'expression de la première lettre de Saint-Pierre, pèlerin et étranger sur cette terre, Nous retenons souvent, je schématise, que pèlerin s'applique à nous et qu'étranger s'applique aux autres. Nous chantons volontiers, nous sommes les pèlerins, etc., etc. On peut mettre de la musique, ta, 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 nous sommes pèlerins, pèlerinage. Enfin, moi, je chante cette chanson continuellement. Mais je ne me suis pas entendu souvent chanter la chanson « Je suis un étranger, un étranger ». Nous sommes des étrangers. Non, les étrangers, c'est toujours les autres. Quoi. Et précisément, la Bible nous dit « Attendez, non. Toi, Israël, tu es étranger. Tu es l'étranger sur la terre. » Et je me suis demandé aussi, mais est-ce que nous n'avons pas à découvrir aussi que notre identité comporte une part d'étrangeté, même à nos propres yeux? Vous savez, si le baptême nous avait mis dans une identité parfaitement maîtrisable, connaissable et finalement facile à comprendre, bah, tout le monde s'est baptisé, enfin, en tout cas moi je n'aurais pas de problème dans ma vie chrétienne. C'est donc bien qu'il y a dans notre identité profonde quelque chose qui nous échappe toujours et a fortiori dans la nouvelle naissance, qui elle est un don gratuit de Dieu. Donc, tout ça pour dire que Abraham éprouvait dans sa chair qu'il était étranger aussi sur la terre, mais peut-être aussi qu'il était en quête de sa vraie relation avec Dieu, c'est-à-dire de son moi profond, de son âme, si vous voulez. Si le frère n'est pas un étranger pour moi, il va y avoir des problèmes. Ah oui, je renverse, je suis paradoxal. On dit quelquefois, il ne faut pas que l'autre soit un étranger. Attention, pas trop vite. Ah oui, évidemment, pour la bonne morale, le catholique, c'est évident qu'il est... Non, non, tu n'es pas un étranger, tu es mon frère, etc. Bon, tout ça, c'est très gentil, mais si l'autre n'est pas du tout un étranger pour moi, je risque de projeter sur lui des choses qui sont simplement une projection de moi-même ou de ce que je connais. Si je ne me laisse pas surprendre par celui qui n'est pas moi par définition et qui est l'autre, et donc il y a une part d'étrangeté. C'est pour ça que les bagarres les plus salées, les plus hardes, se font entre les frères. La Bible est tissée dans le premier chapitre de bagarres entre les frères. C'est celui qui est très loin. Bon, de temps en temps, on peut avoir peur de lui, mais se battre avec lui, non, c'est rare. Les bagarres sont souvent avec le prochain. C'est pas avec ceux qui sont un peu plus loin. Donc si je ne reconnais pas l'étrangeté de l'autre, je risque d'entrer dans une relation fusionnelle ou de violence avec lui. Nous allons le voir plus tard pour Jacob et Ésaü, parce que c'est le deuxième texte que je voudrais pour le coup visiter avec vous. Ah oui, alors j'avais tout un passage, mais je vais le prendre rapidement. Ici, je voulais introduire sur la notion d'étrangeté. Une réflexion puisée dans un livre d'Enzo Bianchi. Je ne peux rencontrer l'autre qu'à la condition de me reconnaître moi-même comme un étranger. Oui, c'est l'heure qui... Bon, on a encore une vingtaine de minutes.
Oui.
Bon.
Jusqu'à une demi.
D'accord.
Jusqu'à une demi, je vous arrête.
Merci. C'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs. Dans un livre, oui, c'est ça. Alors, au tout début de son livre, il casse l'idée, trop rapide, que notre sacro-sainte laïcité, il n'est pas français, il est italien, ne résoudra jamais la question de l'altérité. Et qu'on peut parfois, sous couvert de laïcité, gommer les altérités. Vous voyez toutes les conséquences pour le paysage français aujourd'hui. Apaiser ou non la laïcité qui voudrait aplanir les aspérités, les altérités, se trompe de cible. Des mondes entiers nous demeurons étrangers et nous serons toujours invités à sortir de chez nous pour nous rencontrer plus profondément, et pas, comme on dit quelquefois, pour être intégrés les uns aux autres. Les relations plus ou moins faciles entre les mondes tellement divers qui côtoient notre planète aboutiront-elles à une fusion dans un nouveau monde, ce qui serait catastrophique, tous les totalitarismes ont rêvé de ça, ou une victoire d'un monde sur l'autre, ou une simple coexistence pacifique, ou bien, et voilà précisément la chose qui nous intéresse, une rencontre. Une rencontre dans laquelle chaque partie, et non seulement bien évidemment respectée, mais mieux, se grandit et s'épanouit dans l'accueil et dans le partage avec ce qui apparaît d'étranger chez l'autre. Il s'agit de bien plus que de tolérer la diversité. Il s'agit d'accepter le mystère de l'altérité. Il existe un midrash rabbinique, le midrash rabbinique c'est un commentaire de la parole de Dieu chez les juifs, dans le grand psaume sur la loi, qui applique à Dieu lui-même la parole du psaume « Je suis un étranger sur la terre ». Cette parole, dans le midrash juif, ici, est appliquée à Dieu lui-même. Franchement, qui peut dire que Dieu n'est pas étranger aujourd'hui? Je ne parle pas simplement, il se cache dans l'étranger, selon les bons codes. Non, non, non. Il est étranger au monde, quoi. Enfin, de bien des manières. Je ne juge personne en disant ça. Je dis, il apparaît comme l'étranger. C'est-à-dire celui dont beaucoup disent, mais pourquoi vous vous intéressez encore à ces choses-là, quoi? Pourquoi vous réunissez des gens pour leur parler de ces vieux textes, quoi? Enfin, prenez simplement sur le mode psychanalytique. Prenez simplement sur le mode archéologique, psychologique. Mais arrêtez avec votre histoire de Dieu, enfin. On sait bien que ça n'existe pas. Donc ne nous fatiguez pas, quoi. Non, vraiment, Dieu est étranger. Et c'est beau de voir qu'un midrash juif appliquait la parole du psaume déjà, peut-être il y a 2000 ans, à Dieu lui-même. Oui, un peu plus loin là, dans ce livre, Enzo Bianchi parle de la rencontre, enfin de l'hospitalité, comme le fait d'entrer en compagnie des hommes. C'est très beau cette expression qu'on applique aux jésuites, compagnie de Jésus, il dit la compagnie des hommes. Cette compagnie prend le sens d'une volonté de rejoindre l'homme là où il est. Et j'ajoute, même dans le lieu de son péché et de son refus de Dieu. Vivre dans la compagnie des hommes veut dire les rencontrer d'abord avec bienveillance, avec amour. Parce que le Christ n'est pas mort seulement pour nous, et même il l'a fait pour nous alors que, dit l'auteur biblique, nous étions encore pécheurs. Nous étions, dit-il, ennemis de Dieu, et nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Et voilà que ce mystère s'étend à tous les hommes. Il y a un très très beau passage aussi à propos de du dialogue, et du dialogue pas seulement entre croyants ou de croyants à incroyants, comme vous voudrez, mais le dialogue avec Dieu. Je reviens sur l'attente de la rencontre. Ben Gourion, donc le fondateur un peu de l'État moderne, Israël, dit-on, aurait interrogé Martin Buber, c'est un exégète juif, sur les motivations de sa foi. Ben Gourion n'est pas croyant, c'est un juif, comme il y en a beaucoup, qui n'a pas la foi, bon, enfin, en tout cas qui se positionne comme athée. Bon. Martin Buber est un juif croyant, et Ben Gourion interroge Buber sur les motivations de sa foi. Pourquoi tu crois? Qu'est-ce que ça t'apporte, etc. Et Martin Buber aurait répondu ceci. C'est une très belle expression de Martin Buber. Si Dieu n'était rien d'autre qu'un objet de discussion, un Dieu dont on parle, je ne croirais pas en lui. Mais mon Dieu est un Dieu à qui je peux parler. Voilà la raison de ma foi. Un Dieu à qui je peux parler. Il y a aussi un très beau livre d'Abraham Eshel, un juif, Dieu en quête de l'homme, à la rencontre de l'homme. Vous savez que le mot étranger en grec signifie à la fois étranger, étrange, mais aussi hôte et ami. Le même mot, la même racine, qui donne en français xénophobie d'ailleurs. C'est xénos. Je ne suis pas spécialiste, hein, j'ai été vérifié. Si un agent plus calé que moi, vous préciserez cette petite remarque étymologique. L'Église, d'une certaine manière, est l'étrangère d'Israël, mais aussi l'ami et l'hôte d'Israël. Elle est appelée à vivre l'alliance avec tous les hommes. Nous sommes étrangers à nous-mêmes. C'est aussi le titre d'un livre de Julia Kristeva. Ça, c'est une philosophe actuelle en France, hein, connue. Bon. Je finis ce petit détour hein, sur l'étrangeté, sur l'étranger, mais très enfin, consonante avec notre thème de la rencontre dans la Bible. Hein. C'est une expression d'Enzo Bianchi, magnifique. Ce n'est qu'en vivant sa dimension d'étrangeté que l'Église est créatrice de communion. Magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup cette expression. Découverte, hein. Merci René, je ne vais pas aller la chercher, je crois, sans vous, parce que je me disais les choses un peu autrement. Je me dis, bon, bref, je trouve cette expression très belle. Si l'Église ne vit pas sa dimension d'étrangeté, l'étrangeté, ça ne veut pas dire qu'elle se coupe du monde. Et c'est quand même une chose étrange dans le monde actuel. C'est étrange que nous faisons, vous savez. Ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est étrange, pour reprendre l'expression de Maurice Bellet. Cette chose étrange qu'est l'Eucharistie, bon. Cette chose étrange aussi des ministères ordonnés, etc. Si l'Église ne vit pas sa dimension d'étrangeté, elle ne sera jamais facteur de communion. Elle est d'autant plus signe et servante de communion qu'elle est consciente de sa dimension d'étrangeté. Je vais sauter toute une partie parce que ce ou rapidement. Ça va, vous n'êtes pas épuisé. Le photographe va bien. Bon. Ça, c'est pour ceux qui veulent quelques petits repères faciles, mais faciles, enfin, schématiques plutôt, qu'il faudrait développer. Je vous donne, en énumérant simplement, quelques points d'attention que donne Enzo Bianchi dans la rencontre, qui est presque synonyme de l'hospitalité, si vous voulez, hein, mutuelle. Alors, c'est la rencontre de ceux qui viennent et vers qui je vais. Et la manière dont les rencontres se vivent ou sont possibles signe immédiatement le degré d'humanité d'une société. Et il pointe sept perles, si vous voulez, sept petites perles, je les énumère simplement. Mais on peut les déduire de ce beau texte que René nous a lu tout à l'heure sur les visiteurs d'Abraham. Le premier point, c'est de garder la porte ouverte. Abraham est au seuil de sa tente, enfin, voilà. Il n'est pas coincé à l'intérieur. Je ne développe pas, j'énumère simplement les points, ce serait trop long après. Garder la porte ouverte. Ici, nous sommes dans un lieu clunisien, ô combien, donc bénédictin, enfin en tout cas monastique, et où Saint Benoît recommande dans l'arrêt qu'on se met à genoux devant l'hôte qui vient, parce que c'est le Christ qui vient à nous dans l'hôte, référence à Abraham, et on lui lave les pieds. Deuxième perle, écoutez. Écouter, c'est d'abord se rendre disponible intérieurement dans le temps que je consacre aux autres. Bien sûr. Ça ne va pas de soi aujourd'hui. Troisième perle, suspendre mon jugement. Je n'ai pas à interpréter l'autre avant même qu'il ait parlé, quoi. J'ai à recevoir ce qu'il me dit, ou ce qu'il ne me dit pas, ou ce qu'il a de la difficulté à dire. Et je me tiens au seuil de la conscience de l'autre sans jamais vouloir y pénétrer. C'est ça, suspendre le jugement. Quatrième perle, être capable de... Rare, dit quelqu'un, oui. Bah oui, mais... Enfin, elles existent quand même dans la pratique de beaucoup, quoi. Et la quatrième, c'est l'empathie et la sympathie. Être capable d'être a priori en sympathie, donc en bienveillance, mais aussi en empathie par rapport à ce que l'autre vit, de joie ou de peine. Le cinquième, le dialogue, bien sûr. Le dialogue, c'est une chose très simple. Il n'existe que si les partenaires veulent recevoir quelque chose de l'autre. Voilà, c'est pas plus compliqué, le dialogue. Le jour où le dialogue, c'est simplement pour imposer à l'autre ce que j'ai à lui dire, il n'y a plus de dialogue, quoi. Ça, c'est clair. Le dialogue est toujours le fait qu'il y a des manques qui cherchent à s'épauler, qui... Là où il n'y a pas de manque, il n'y a pas de dialogue, quoi. Celui qui n'a plus rien, qui sait tout, n'écoute plus rien. Je te connais par cœur, tais-toi. Ben voilà, c'est catastrophique, ça. Là, le cœur, je ne sais pas où il est endurci, ce cœur-là, qui dit ça. Moi, je dis, à celui qu'on aime, on ne dit jamais « je te connais par cœur ». Je dis plus je te côtoie, plus tu me surprends. Ça, c'est possible. Quelquefois, j'en ai le souffle coupé, c'est possible. Mais je ne peux pas dire « je te connais par cœur ». La preuve, c'est que tu me surprends toujours. Le dialogue. Le sixième perle, le fait de se dessaisir de ce qu'on en a. Abraham se précipite vers ses serviteurs, sa rente et sa femme qui faisaient partie du lot à ce moment-là dans l'histoire pour lui dire vite, prépare le repas, quoi. Va chercher telle chose, bon, donner ce que l'on a. Et enfin, septième, l'hospitalité est toujours, nous mène toujours plus loin que ce que nous pensons. Vous ne savez pas qu'on hébergeait des anges, par exemple. L'auteur d'être aux épaules. Abraham ne savait pas qu'il hébergeait des anges. L'hospitalité va toujours plus loin que ce qu'on en attend. Elle nous conduit toujours plus loin. Et vous voyez, rejoint ici le tabernaculum, hein, la tente. Saint Augustin a un très beau commentaire du psaume sur le désir de Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Comme on a soif d'une rencontre, de la rencontre au bout d'un moment, face à face avec toi. Je me découvrirai pleinement moi-même tel que je suis aimé. Bon, et alors, commentant ce psaume du désir de Dieu, qu'on prend, je crois, le dimanche matin, je ne sais plus comment, office, Augustin dit, l'Église, c'est déjà le lieu de la demeure. Mais attention, c'est une demeure qui est provisoire et qui est en train de marcher, qui est en mouvement vers la demeure définitive qu'il appelle le tabernaculum. Donc l'Église pour Augustin est comme cette nouvelle arche d'alliance qui chemine au milieu des hommes, désormais ce n'est plus ici ou à Jérusalem le lieu où il faut adorer, c'est en esprit en vérité, dans la chair humaine, et ce lieu de la présence, l'Église, est comme une sorte de tente sur roulette, si vous voulez, qui bouge. C'est pas une tente fixe, c'est même pas une tente qu'on met à un endroit qu'on déplace comme dans l'Ancien Testament. C'est une tente sur roulette qui avance vers la demeure définitive, le lieu de la rencontre. Je te verrai, Seigneur, tel que tu es. Le départ de Jacques. Alors oui, je disais le deuxième texte, je l'évoquais simplement. Alors j'ai choisi un deuxième texte biblique. Ça va ?
Bon, c'est bien. Je pensais que ça devenait une caravane.
Oui, alors ça, il faudrait dire à Augustin, est-ce qu'il n'a pas vu la tente se changer en caravane, c'est possible. Ah oui, aujourd'hui, oui, c'est vrai, vous avez raison, il faudrait parler de caravane directement. C'est encore plus simple. Ou la roulotte, oui.
Ou la roulotte.
Le deuxième texte que je pensais, c'est un texte aussi où il est explicitement question de la rencontre. C'est pour ça que j'ai choisi. C'est celui du combat de Jacob avec l'ange sur le gué du Yabor. Alors ça, c'est un texte, il ne faut pas demander à René de le lire tout de suite parce qu'il faut quand même donner le contexte. Puis après, on écoutera peut-être ce passage. Il y avait eu un départ d'Abraham, quitte ton pays, mais le départ de Jacob, dans les chapitres donc 17, 18, 19, 20, dans ces parages de la Genèse, le départ de Jacob, c'est une fuite pour sauver sa peau. Et c'est même sa mère qui lui conseille de se barrer, quoi. Parce que le frère est tellement furibard que l'autre ait fait une ruse pour appeler la bénédiction sur lui alors que ça devait à l'aîné, que l'autre est entré dans une fureur noire, il a décidé de tuer son frère. C'est toujours la même histoire, ça. Et donc, Ésaü est furibard. Et Jacob se taille. Et sa mère, gentiment, Rebecca, lui dit, écoute, je te conseille d'aller là. J'ai un parent plus loin, vas-y, c'est vers Laban, vas-y, quoi. Enfin, c'est là, très bien. Et tu vas te protéger. Il est resté une partie de sa vie là-bas. Alors après, il y a des épisodes merveilleux, merveilleux. Il arrive chez Laban, enfin, il y a le mariage. Il attend 14 ans pour consommer le mariage, dit la Bible. Enfin, dit la Bible. Il doit 7 ans pour la première, et puis après, il y a une ruse encore, au lieu de lui faire épouser la cadette, on lui fait épouser par ruse l'aîné, et il dit, au lever le matin, il dit, mais c'est pas celle-là, c'est peut-être que c'est pas mal. Qu'est-ce que tu m'as encore trompé, enfin, Jacob est toujours là-dedans. Il est à la fois celui qui est rusé, mais qui se fait avoir aussi, enfin, bon, c'est pas. Et, alors, de nouveau 7 ans pour avoir la cadette, puis finalement, il y a le mariage, bon. Et puis un moment, du coup, il y a des gens de la famille, même Topo, qui sont jaloux, puis c'est lui qui a le plus beau troupeau, il est le chouchou du patriarche, etc. Il faut qu'il se rebelle, de nouveau qu'il se barre, qu'il en aille. Et là, il est obligé de rentrer chez lui. Il a la trouille bleue de rencontrer Ésaü, qui cherche à bagarrer, etc. Et c'est à ce moment-là. Alors, oui, un tout petit peu avant que René, si tu veux bien, lise le passage, il prépare la tactique pour aller rencontrer son frère. Il lui envoie des cadeaux par avance, vous savez, des vagues de cadeaux. Pour que les frères soient un peu amadoués, quoi. Et alors, après, pour une fois, il va se retrouver, c'est là le texte magnifique, il va se retrouver seul. Nous avons beaucoup parlé cet après-midi de la rencontre, et voilà qu'il va vivre la rencontre au moment où il devient, où il est seul.
Cette même nuit, il se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, et il passa le gué du Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent, puis il fit passer ce qui lui appartenait, et Jacob resta seul. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur, qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit, « Laisse-moi, car l'aurore s'est levée. »« Je ne te laisserai pas, répondit-il, tant que tu m'es béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?»« Jacob, répondit-il. » Il reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. » Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Jacob lui demanda, de grâce, indique-moi ton nom. Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom ? Là même, il le bénit. Jacob appela ce lieu Peniel, c'est-à-dire face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait, quand il passa Penuel, il boitait de la hanche. C'est pourquoi les fils d'Israël ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à la courbe du fémur aujourd'hui encore. Il avait en effet heurté Jacob à la courbe du fémur, au muscle de la cuisse.
Alors, je voudrais simplement commenter rapidement, non pas tout le texte, mais ceux qui sont les grands, grands textes de la... commenté par les pères spirituels, les pères de l'Église. C'est simplement le fait que la vraie rencontre va se jouer là, pour Jacob. La rencontre où il y aura un avant et un après, c'est finalement le combat avec Dieu lui-même, et le combat avec lui-même, avec l'homme. Car il a tout épuisé des moyens pour la rencontre, des astuces aussi, il était capable de ça. Et maintenant, il se retrouve démuni. Et le passage... du gué, le passage, ça évoque pour Israël la libération. Mais avant d'entrer dans cette libération, il va éprouver qu'une nuit entière, et nuit ça veut dire une existence sans voir, quelqu'un va lutter dans la poussière avec lui. C'est une forme de création. Avec la poussière du sol, il y avait modelé l'homme à sa ressemblance. Et voilà que de nouveau, on a l'impression qu'il y a un modelage de Jacob qui va se jouer là. Un modelage. Et il accepte. Non pas du tout de rester passif, c'est toute la différence qu'il y a entre la foi judéo-chrétienne et puis toutes les spiritualités de l'Orient non chrétien qui sont dans une mauvaise, dans une passivité différente. Pardon, je me suis repris tout de suite. Merci à ceux qui surveillent notre très orateur. Une autre passivité. En tout cas, le texte dit justement, tu n'as pas... Tu ne trouves ton nom pas parce que tu as été vaincu, mais parce que tu t'es vainqueur, quoi. C'est une spiritualité très différente. C'est donc une... pour Jacob, ici, enfin je le lis comme ça, il va entrer dans la lumière, dans le face-à-face avec l'autre, au terme d'une nuit où il est resté fort. Où il était fort, à quel endroit ? Eh bien, en voulant connaître ce mystérieux autre qui le façonnait de nouveau dans la nuit. Et connaître ce mystérieux autre qui le façonnait dans la nuit, qui le refaçonnait. Et je finis par un très beau... Bon, il y a aussi la nuit, c'est super, bon. Par un très beau passage d'Augustin, saint Augustin. Saint Augustin, bon, on ne raconte pas toute la vie, vous la connaissez bien. En tout cas, c'est après, dans les Confessions, livre 5, chapitre 2, il a une très belle expression pour dire que tant qu'il n'avait pas, quand il ne s'était pas laissé altérer par Dieu, il ne savait pas qui il était, lui, Augustin. Il a trouvé qui il était dans la découverte du toi de l'autre, du théoï, qui est adressé à Dieu seul, il finit complètement à Dieu seul, quoi. Le premier mot que nous dirons peut-être un jour dans le royaume, c'est « Ah, toi, Seigneur !» Enfin, j'apparaîtrai avec mes frères, toi, dans la belle relation avec l'autre, quoi. Alors, Augustin dit ceci. Ils ignorent, bon, il parle des injustes, mais il a été dans ce, il se reconnaît lui-même dans son itinéraire. Les injustes se sont dérobés à ta douceur. Ils ignorent que tu es partout, toi que le lieu ne peut pas contenir, et que seul tu es présent, même à ceux qui te fuient. Qu'ils se retournent donc et qu'ils te cherchent. Car pour être abandonné de ses créatures, le Créateur ne les abandonne pas, lui. Qu'ils se retournent et qu'ils te cherchent. Mais tu es dans leur cœur. Dans le cœur de ceux qui témoignent, qui confessent, qui se jettent dans tes bras, qui pleurent dans ton cœur au retour de leur pénible chemin. Père très tendre, tu essuies les larmes. Et ils pleurent encore, et ils trouvent leur joie dans ces pleurs. Car ce n'est pas un homme de chair et de sang, mais c'est toi-même, Seigneur, qui les console, toi leur Créateur, qui les crée une seconde fois. Et moi, où étais-je quand je te cherchais? Tu étais devant moi, mais absent de moi-même, ne me trouvant pas, comme j'étais encore loin de te trouver. Magnifique, ouais, ça c'est pur Augustin. Et, tant que j'étais loin de toi, je ne pouvais pas me trouver. Alors, je finis par là, toute rencontre est toujours une avancée dans la personnalisation, dans le bel échange entre les personnes humaines appelées à la relation éternelle avec Dieu, et qui donc vont se grandir dans cette découverte de l'altérité. Et pour finir sur la Bible, enfin, la vraie rencontre, enfin, la rencontre biblique par excellence, c'est celle que Dieu cherche avec nous. C'est celle que Dieu cherche avec nous, et en nous laissant trouver par lui, nous découvrons inséparablement qui nous sommes. Et du coup, nous devenons des signes, pour ne pas dire des sacrements, de l'alliance. De l'alliance, pour employer un autre mot biblique, très proche du mot rencontre, éternelle dans le Christ, dans le sang même, dans la vie même du Christ. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre patience.